solo esta vez. Ole, ole, ole.
CIUT 89.5 FM, the station that brings you the best Latin music, new and old, on Ultra Latino with DJ Chelly. CIUT 89.5 FM, the sound of your city.
The views and opinions expressed on the following program are those of the producers and or the persons appearing on the program and do not necessarily reflect the views and opinions of CIUT FM.
CIUT 89.5, Toronto.
Want to learn French? Parlez-vous français? Join us every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. on CIUT 89.5 FM or on the internet at CIUT.fm or live from our studio. Potpourri Show targets student listeners who want to explore and travel through the Francophone world. Each Sunday, our show includes French lessons, news, reports from across the continent, as well as international news flash about Africa, Europe, the Caribbean, and the Indian Ocean Islands, and features music charts and social issues around the world. Lively, upbeat, provocative, and on target. Potpourri Show, every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. in partnership with Radio France International, the French Studies Department, University of Toronto. Our email address, pot.pourri@simpatico.ca.
Nous sommes tous différents. Nous sommes de générations différentes, de cultures différentes et de milieux sociaux différents. Certains d'entre nous occupent des postes d'influence et certains d'entre nous passent leur vie à servir les autres. Quelques-uns d'entre nous aspirent à réussir dans la vie et d'autres à réussir sa vie. Nous avons tous notre unicité, notre particularité, notre personnalité. Nous ne vivons pas les mêmes histoires et ne menons pas tous les mêmes combats. Nous pouvons rester dans l'ombre et subir la vie. Mais nous pouvons aussi puiser en nous la force de combattre pour faire changer les choses.
Nos efforts collectifs contribuent à arrêter la propagation de la COVID-19. À mesure que les commerces rouvrent, respectez l'écart sanitaire et portez un couvre-visage quand c'est difficile de respecter l'écart. Pour en savoir plus, consultez ontario.ca/nouveau coronavirus.
RFI, la radio d'actualité internationale du groupe France Média Monde, diffusée en français et en 13 autres langues. 480 journalistes à Paris, 42 nationalités, 400 correspondants sur les 5 continents. Une présence mondiale sur 156 fréquences FM, en ondes moyennes, en ondes courtes, sur le câble, le satellite et via plus de 1400 radios partenaires. Plus de 40 millions d'auditeurs chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 17% en 4 ans. RFI, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 15 millions de visites sur RFI.fr, dont 40% en langues étrangères. Des offres thématiques sur l'Afrique, la musique ou encore sur les savoirs et l'apprentissage du français à partir de 20 langues étrangères. Une communauté de plus de 21 millions d'abonnés sur Twitter et Facebook qui font d'elle la première radio généraliste française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus nombreux à nous faire confiance.
Chaque dimanche, soyez de la fête avec RFI, Potpourri sur CUT 89,5 FM. Écoutez les voix du monde sur votre fréquence. Quelles sont les valeurs de la francophonie? Quels sont les enjeux de la francophonie? Qui sont les francophones de la planète? Qui sont les francophones de Toronto, de l'Ontario, du Canada? Qu'en pensent les jeunes, les femmes, les LGBT, les immigrants? Chaque dimanche, je vous invite à écouter, participer à nos jeux concours. Votre magazine est avec vous depuis plus de 33 ans sur CUT 89,5 FM. Potpourri Show. Sur votre fréquence, tout au long de l'année. La radio, comme je l'aime.
Madame, how would you like your baguette? With butter or marmalade?
Du 16 au 22 novembre, CUT FM revient avec sa campagne de dons. Malgré la saison automnale très particulière, cette année, la campagne MTA Radio bat son plein et compte sur vous pour garder l'antenne. Faites un don à notre émission en visitant le site web cut.fm. Aidez-nous à garder Popourri Show, la seule et l'unique émission en français sur les ondes de la radio du campus de l'Université de Toronto. Du 16 au 22 novembre, la collecte de dons automnale MTA Radio bat son plein. Allez, on vous attend en grand nombre. Faites un don maintenant en visitant cut.fm. Cliquez simplement sur le bouton « Faire un don » et aidez-nous à garder le son de votre ville en ondes. Depuis 1966, CUTFM est à vos côtés. Aujourd'hui, plus que jamais, la radio compte sur vous, compte sur toi. La radio vous lance un appel à faire un don du 16 au 22 novembre. Aime ta radio et fais un don en ligne en toute sécurité en visitant le site web cut.fm. CUTFM, la radio comme je l'aime.
Les médias publics, ce sont les vôtres. Alors quoi de plus normal que d'imaginer leur avenir avec vous? En 2018 déjà, vous étiez nombreux à nous répondre. Alors en cette année si particulière, qu'attendez-vous de vos médias publics? Info, éducation, divertissement, culture, sur nos réseaux de proximité ou internationaux, venez proposer vos idées sur nosmediapublics.fr. Parce que rien ne se fait sans vous, inventons aujourd'hui ensemble les médias de demain.
Heureusement que si tout le monde, si les gens avaient eu autant de courage que Laurence Rossignol, qui d'abord, je rappelle, est présidente de fondatrice de, et une des fondatrices de SOS Racisme, petit 1, lui faire un procès sur l'expression nègre. Moi, je reprends Aimé Césaire, le premier, qui dit nègre je suis, nègre je resterai.
Toujours
je pense, mais bien
Césaire.
Sûr, c'est très important. Nègre je suis, nègre je resterai. Nègre, c'est pas un vilain mot, c'est un mot justement qui est utilisé. C'est un mot tabou qui est utilisé pour évoquer l'esclavage.
C'est un mot qui a disparu de notre langage, François.
Complètement voilà. Disparu.
Nos aînés disaient nègre.
Christiane Taubira parle elle-même, elle se définit également elle-même comme nègre. C'est aussi le
principe. Mais quand c'est Taubira qui le dit, c'est pas la même chose que quand c'est Laurent Rossignol.
D'accord, Laurent, faire un procès.
Il faut être noir pour parler.
Procès en racisme à Laurence Rossignol, sur cette connerie-là, sur ce mot-là, c'est vraiment
limite. On peut
limite.
Faire un procès à Rossignol d'utiliser des choses qu'elle maîtrise pas, en fait.
Je pense qu'elle a vraiment voulu frapper les esprits, parce que son argumentaire contre les marques comme H&M, si tu veux,
et
la mode, la mode islamique, il est absolument parfait. Moi, j'aime beaucoup cette phrase. Chaque fois que les droits des femmes, si tu veux, progressent, les jupes raccourcissent.
D'accord.
Cette phrase, elle dit tout.
Rossignol a dit faute de langage. Donc pour toi, c'était pas une faute de langage, il fallait l'assumer.
Fallait l'assumer, bien sûr, pourquoi elle l'a pas assumé.
Dimanche 1er novembre 2020, en direct de Washington. Bonjour et bienvenue à votre magazine de la francophonie, toujours en mode virtuel. Et montage, mixage, DJ Devera, production, animation, votre serviteur, Eric Haber. En direct sur www.cut.fm. Et pour télécharger nos émissions, quoi de plus simple, popourishow.com. Nous saluons les nombreux auditeurs qui nous suivent de New Delhi, Port-au-Prince, Rennes, Lyon, Paris, Île-Maurice, Sydney, Melbourne, Tokyo, Montréal. Merci de votre fidélité. L'émission de ce dimanche est réalisée grâce à la précieuse collaboration de plusieurs correspondants et partenaires au Canada et à l'étranger. Nous avons concocté un menu très très spécial en ce premier jour du mois de novembre, à la veille du scrutin du 3 novembre aux États-Unis. Un scrutin qui sera crucial pour les Américains et peut-être même pour la planète. Ça fait quelque temps qu'on vous parle des nouveaux podcasts de notre partenaire Quoi de neuf, les Cafés du Créfaux, une série de podcasts mettant en vedette les professeurs, chercheurs, des gens engagés dans différents domaines, une toute nouvelle initiative. À qui s'adressent ces podcasts? Quelles sont les thématiques? Quelles sont les attentes du Créfaux? Comment se passe la vie à l'ère Covid au Créfaux? Eh oui, on en parle avec Dr Emmanuel Lepuchon-Wortzmann, directrice du Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le Créfaux, spécialisé dans des questions d'éducation inclusive et de diversité culturelle. Le ton monte, les enseignants francophones de l'Ontario issus de la diversité perdent patience et créent leur propre association, l'Association ontarienne des professionnels de l'éducation de la diversité, AOPED, fondée, c'était au mois de septembre de cette année. Qu'est-ce qui cloche à l'Association des enseignants enseignantes francophones de l'Ontario, l'AEFO? Pourquoi n'a-t-elle pas répondu aux nombreux appels de ses membres enseignants issus de la diversité? Où en est la plainte des enseignants francophones de l'Ontario issus de la diversité contre l'AEFO, plainte déposée, vous vous souvenez, au Tribunal des droits de la personne de l'Ontario? On en parle avec Blaise Gwendo-Yonsi, président de l'Association ontarienne des professionnels de l'éducation de la diversité enseignant à l'école secondaire Sainte-Famille à Mississauga, une ville un peu à l'ouest de Toronto. La pandémie de COVID-19 a d'importantes conséquences dans plusieurs sphères, y compris dans le monde culturel. La radio, les radios communautaires aussi sont durement touchées. On en parle si on en a le temps. Mais tout d'abord, débats et polémiques se poursuivent à l'Université d'Ottawa et dans la francophonie canadienne après la suspension d'une professeure pour avoir utiliser le mot « nègre ». Des Noirs francophones de l'Ontario exigent plus d'ouverture de la part du monde académique. De par son histoire, le mot « nègre » choque. Faut-il le bannir? Doit-on l'interdire uniquement aux personnes qui ne sont pas noires? Peut-on l'accepter en fonction du contexte de la personne qui le dit? Le débat est ouvert. L'académicien et grand écrivain québécois d'origine haïtienne, Dany Laferrière, défend l'emploi du mot « nègre », une vieille revanche selon lui. Il était au micro de la radio RTL à Paris cette semaine. Quelques extraits, si on en a le temps. Escale à Paris, Paris-Paris qui est sous le couvre-feu. Nous ferons éruption dans l'émission 10 minutes pour comprendre avec Hélène Sérignac, jeune journaliste, animatrice parisienne, passionnée, inspirée. Elle reçoit François Dupère, universitaire et historien spécialisé dans les questions d'éducation, de bien-être, de diversité culturelle aux États-Unis et en France. Parmi nos top 10 des chansons francophones au Canada francophone, la vidéoclip Vasimolo fait un vrai tabac dans le monde culturel, dans les radios, surtout au Québec. Richie Jay, notre ami, artiste d'origine haïtienne, qui fait carrière à Montréal, une chanson très très ensoleillée, Vasimolo, du label Tolalito, musique disponible en version audio sur toutes les plateformes numériques, à ne pas rater. Présidentielle américaine 2020, on y revient dans un instant. Et oui, direction les États-Unis, le 3 novembre 2020, donc dans quelques jours, sera un moment historique dans l'histoire des États-Unis. Le vote par anticipation ou par correspondance est déjà plus important qu'en 2016. D'ici le 2 novembre, on estime à plus de 100 millions d'électeurs qui auraient voté du jamais vu. Et pourquoi cet engouement? Quel regard portez-vous sur la présidentielle américaine et sur le duel sans merci que se livrent le républicain Donald Trump et le démocrate Joe Biden? Qu'est-ce qui vous choque? Qu'est-ce qui vous passionne? L'Afrique, l'Europe, le Canada seront-ils impactés par le résultat de cette élection? Qu'en attendez-vous? Selon vous, qui remportera ces élections? Écrivez-nous, nous voulons tout savoir, popourri@cut.fm. Notre collègue et journaliste Corinne Manjou du magazine Vivre ailleurs, le magazine pour les Français de l'étranger, de RFI, nous invite à rencontrer les Français établis aux États-Unis. Qu'est-ce qui va changer pour les expatriés demandeurs d'emploi aux États-Unis? La situation des conjoints suiveurs pourrait-elle évoluer? Les explications de Stéphanie Rubin, expatriée à New York, aux États-Unis, depuis 20 ans, directrice financière d'une société hôtelière qui gère des hôtels, des restaurants et des boîtes de nuit à New York. Allez, reportage.
L'élection américaine et l'emploi des expatriés aux États-Unis. Qu'est-ce qui va changer pour les expatriés demandeurs d'emploi et pour ceux qui souhaitent créer leur entreprise? Quelles conditions doivent remplir aujourd'hui ces entrepreneurs expatriés? La situation des conjoints suiveurs pourrait-elle évoluer? Les explications de Stéphanie Rubin, expatriée aux États-Unis depuis 20 ans, directeur financier d'une société d'hospitalité qui gère des hôtels, des restaurants et des boîtes de nuit.
Je suis arrivée aux États-Unis il y a à peu près 20 ans. Je travaille dans la finance.
En tant qu'expatriée aux États-Unis, qu'est-ce que vous attendez de la prochaine élection présidentielle? Est-ce que les expatriés ont des souhaits spécifiques?
Le premier souhait, c'est qu'on en termine, parce qu'on ne parle que de ça aux nouvelles, pas forcément pour les bonnes choses. Maintenant, comme vous le savez, avec la crise sanitaire, les frontières sont fermées. Beaucoup d'expatriés ne peuvent pas sortir ou rentrer du pays, eu égard à leur statut. Donc en fait, une fois que l'élection sera passée, on espère avoir quelque chose d'un peu plus stable pour nous, pour nous permettre de sortir et rentrer du pays, d'obtenir des visas. Il y a eu un gel des visas demandé par le président Trump. Donc on espère que ce gel des visas va être terminé une fois que l'élection sera passée et que du coup, on pourra continuer ou reprendre l'embauche de nouveaux expatriés. Le gros de ces élections, c'est qui va être capable de relancer l'économie. Et je pense que c'est ce qu'on attend tous aussi un peu. La situation des Français à l'étranger est un peu précaire dans le sens où si vous êtes licencié de votre travail, on vous donne une semaine ou deux pour repartir. Donc le fait que l'économie soit dans cet état actuel, c'est un peu difficile pour les expatriés.
Et quel a été l'impact de la politique de Trump sur les expatriés?
Ce qui est sûr, c'est que évidemment, il privilégie les Américains. Donc, les sociétés ont envie d'aller embaucher des étrangers. Donc, les sociétés françaises comme LVMH ou Richemont vont continuer à ramener des Français. Mais en tant que Français, il est plus difficile d'avoir des visas. Donc, en fait, les sociétés ont un peu de mal à l'embauche d'étrangers.
J'imagine qu'il y a les mêmes restrictions en termes de création d'entreprises pour les expatriés.
Pour les créations d'entreprises, il faut un visa spécifique de création d'entreprise. Et il faut injecter un certain montant d'argent qui est assez significatif. Alors, ça change régulièrement, mais c'est au-delà de 100 000 dollars. Donc, dans le capitalisme américain, si vous arrivez les poches pleines, ça les dérange moins de vous donner un travail. Donc, ce visa de création d'entreprise a des modalités très spécifiques qui sont l'apport d'un montant initial de cash ainsi que l'emploi d'un certain nombre de personnes. Donc, ce type de visa est actuellement donné encore aujourd'hui, même si les permis de travail ne sont plus donnés aujourd'hui pour des métiers classiques. Mais la création d'entreprise a été conservée dans la mesure où vous remplissez les critères quand même très spécifiques.
Les conjoints suiveurs, est-ce qu'ils ont eu les mêmes opportunités d'intégration dans la société américaine que par le passé?
Je ne pense pas qu'il y ait une différence fondamentale sous Trump, parce qu'en fait, les conjoints suiveurs ont soit un permis de travail automatique, et donc avec ce permis de travail automatique, ils peuvent aller trouver un emploi. Donc je pense pas que ça ait changé foncièrement pour eux.
En fait, aux États-Unis, la situation des conjoints suiveurs est largement liée à celle du conjoint expatrié.
À 100%. C'est vraiment rare, ça arrive bien entendu, mais c'est difficile pour les conjoints suiveurs d'avoir leur propre permis de travail. Donc le permis de travail est complètement lié à leur conjoint et souvent se retrouvent dans des situations où le métier qu'ils ont en France n'est pas forcément exportable ou ne sont pas forcément à l'aise avec l'anglais. La plupart des conjoints suiveurs que je connais ne travaillent pas. Après, il y a une intégration dans la société américaine d'un point de vue social, mais c'est très dur pour eux de s'intégrer dans le monde du travail américain, à moins qu'ils soient extrêmement qualifiés, bien évidemment.
Et cette difficulté-là s'est accentuée pendant le mandat de Trump?
C'était déjà le cas avant. Il y a seulement certains visas qui permettent de donner un permis de travail. Et donc, une fois arrivé ici, le conjoint se retrouve dans une situation où il doit chercher un travail et demander son propre permis de travail. Donc c'était assez difficile, mais je ne pense pas que Trump ait aggravé cette situation.
Les expatriés aux États-Unis attendent donc beaucoup de ces élections.
Évidemment, les deux candidats vont essayer de faire le maximum pour que les Américains retrouvent du travail. Et il y a une certaine pression pour les entreprises aussi, d'un point de vue marketing, de ne pas embaucher d'étrangers. C'est vrai que Trump est très focus sur America First, que n'est pas forcément Joe Biden. Maintenant que Joe Biden n'a pas donné de précision sur ce qu'il ferait au niveau des expatriés, mais bon, c'est vrai que Donald Trump a été très clair. Donc il y a une crainte à ce niveau-là, c'est sûr. Tout ça, c'est bien et c'est important pour se faire élire. Mais le sentiment, c'est qu'une fois que l'élection est passée, ben, ça passe un peu...
Il y aura plus de souplesse.
Voilà. Pour l'instant, en tout cas, c'est pas possible.
RFI. Toute la diversité du monde.
Bonsoir, mademoiselle. Tu veux attraper mon regard? J'aimerais juste savoir si tu voudrais quelque chose à boire. Pour moi c'est pas la peine, je bourrais juste à force de te voir. Ta tenue te va bien mais tu n'es pas obligé de la porter ce soir.
Oui, 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 enlève tous tes habits comme s'il ne t'allait pas. Toute la nuit on a fait tout ce qu'il ne fallait pas. On s'est compris, oui, ton corps parlait avec moi. Moi j'ai parlé à ton body, 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 body. Oui, enlève tous tes habits comme s'il ne t'allait pas. Toute la nuit on a fait tout ce qu'il ne fallait pas. On s'est compris, oui, ton corps parlait avec moi. Moi j'ai parlé à ton body, body, body.
Même quand je les ferme,
elle
est la seule chose que je vois.
Elle me fait voler les pieds sur terre.
Moi j'ai entendu la langue de l'amour dans sa voix.
Parlez-vous français? Oh, oh, oh. Le langage de ton corps m'a dit que oui. Parlez-vous français?
Comme s'il ne t'allait pas. Toute la nuit on a fait tout ce qu'il ne fallait pas. On s'est compris, ton corps est parlé avec moi. Moi j'ai parlé à ton body, 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 body.
Pas besoin de mots, pas besoin de mots. Oublie tout est complexe. Tu pensais jamais trouver meilleur que ton ex. Et le gars est trop frais, mais d'où il sort, tu Louis Store. Campagne de Dior, avant film ils sont déjà morts. Et j'ai même pas commencé, mais moi j'en veux déjà encore. Elle me donne son numéro, mais moi je veux déjà son corps. Moi je veux déjà son vous. Parfum Coco Chanel, son corps m'appelle. Direction Georges 5 Hôtel. Mais t'es valise étage avant que Colette ferme. L'homme est dans une vie de rêve, c'est ce que je promets de faire. Fais disparaître les autres mecs. Les trophées, je connais, collègue, je ne me présente pas, tu dois me connaître, frère. Mr. Dream, tes rêves, je dessine. Trop d'adrénaline, ton entourage hallucine. Fais jalouser tes copines. Musical, French kiss, rock'n, playlist, dans ta playlist.
Elle me fait rêver, les yeux ouverts.
Même quand je les ferme, elle est la seule chose que je vois.
Elle me fait voler les pieds sur terre.
Moi, j'ai entendu la langue de l'amour dans sa voix.
Parlez-vous français? Le langage de ton corps m'a dit que oui. Parlez-vous français? Le langage de ton corps m'a dit que oui.
Oui, 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 enlève tous tes habits comme s'il ne t'allait pas. Toute la nuit on a fait tout ce qu'il ne fallait pas. On s'est compris, tout ton corps est parlé avec moi. Moi j'ai parlé à ton body, 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 body.
Parlez-vous français? Oh, yeah. Le langage de ton corps m'a dit que oui. Parlez-vous français? Oh, yeah. Le langage de ton corps m'a dit que oui.
Et à tous. Je m'appelle Marceline, je suis la directrice générale et artistique de Ciné Franco, le festival du film international francophone à Toronto. Au nom de toute l'équipe, je vous salue de tout mon cœur. Vous nous manquez, fidèles, cinéphiles et amoureux du cinéma. Alors, cette 23e édition du grand public, ce sera notre geste d'amour envers vous. Du 20 novembre au 28 novembre, nous vous proposons 17 longs métrages et 17 courts métrages en ligne, accessibles pour tout le Canada. Notre programmation englobe la diversité francophone internationale, incluant bien sûr la France, la Belgique, la Suisse, mais aussi des pays comme le Liban, avec le film 1982 de Walid Mouanès, le Sénégal, avec le père de Nafi, de Mamadou Dia, ou encore le Maroc, avec Ta mère, de Touria Benzari. Le Rwanda et le Burundi sont au cœur d'un film d'Éric Barbier qui s'appelle Petit pays dans les années fatidiques de 1990. Et pour rester justement dans l'histoire, nous vous proposons également le film De Gaulle de Gabriel Le Beaumain avec Lambert Wilson et Isabelle Le Carré. Un aspect inconnu et intime en fait de la vie familiale du grand général avant l'appel à la résistance du 18 juin 1940. Alors, les histoires d'amour et de femmes abondent dans le registre comique de Ciné Franco. Énorme, de Sophie Le Tourneur à l'humour débridé avec Marina Foïs et Jonathan Cohen. Vous avez aussi La Bonne Épouse de Martin Provost avec une Juliette Binoche en pleine forme. La Belle Époque émouvant et tendre de Nicolas Bedos avec Daniel Auteuil. Nous avons également Belle Fille, un film de Méliane Margacci, hilarant, avec Alexandra Lamy et Miu Miu. Sous les rires de certaines comédies se cachent des observations sociales et politiques assez judicieuses. Par exemple, le film « Québec City » de Joshua Demers ou encore « Tout simplement noir » et avec Jean-Pascal Zadi qui vous fera mourir de rire contre le racisme. Des drames familiaux bouleversants dans un milieu rural, comme le thriller glaçant de Nicolas Boukrieff, « Trois jours et une vie », et « Au nom de la terre », émouvant et poignant, d'Édouard Bergeon, précédé du court-métrage de Nicolas Fay, « La clé du sol ». Lola vers la mer, le film sur la transidentité de Laurent Micheli avec le magistral Benoît Magimel et l'actrice transgenre toute nouvelle Mia Bolaerts. Ce film vous plongera dans un conflit déchirant entre un père et son ado. Le cinéma québécois aussi nous offre une fenêtre dramatique formidable. Le touchant Vacarme de Nigan Trudel, Nadia, Butterfly de Pascal Plante que nous aimons beaucoup, le sublime Mont Foster de Louis Godbout. Les courts-métrages avec Martin Villeneuve qui vous laissera un souvenir indélébile avec son incarnation d'une de ses grand-mères, Emelda, avec Robert Lepage et Ginette Renaud. L'Ontario présente, Ontario créatif, je devrais dire, présente un programme de 17 courts-métrages, principalement de l'Ontario francophone et du Nouveau-Brunswick. Ne manquez pas non plus nos conversations qui accompagnent certains de nos films. Alors, vous trouverez tous les renseignements sur le site web Cinéfranco, alors cinéfranco.com. Je répète, cinéfranco.com et également sur nos pages Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Mais je laisse pour la fin la meilleure, je dirais la meilleure nouvelle, c'est que nous avons acquis un nouveau commanditaire, Platine Hampton Security, qui va être notre présentateur. Merci infiniment, Home. Alors, c'est Hampton Securities. Et aussi, bien sûr, ce festival ne serait absolument pas possible sans le soutien financier de Power Corporation du Canada, de Téléfilm Canada, de l'École internationale du Canada, TFS, de la Société des jeux et loteries de l'Ontario et de l'Ontario Créatif. Merci à tous nos commanditaires, à tous nos partenaires. Je répète, rendez-vous à cinéfranco.com. Merci pour votre attention et bon cinéma.
Nouveau sur RCI.fm. Découvrez les web radios RCI. RCI Compact, RCI Tradition, RCI Latino, RCI Denzel, et RCI Kassav.
CIUT 89.5 Toronto.
La poésie a ceci de merveilleux que sa beauté fait ressortir les profonds sentiments qui caractérisent l'être humain. Et en cette année de pandémie où les émotions sont mises à l'épreuve, c'est tout naturellement que le prix Édouard Monique s'approprie cette nouvelle réalité. Renaissance sera le thème de cette troisième édition.
Renaissance, lipo, pluriel. Donc c'est un thème qui est ouvert, qui n'est pas lié seulement à l'actualité, parce que la poésie peut être en phase avec l'actualité, mais c'est aussi quelque chose qui est beaucoup plus vaste que ça. Et ça ouvre donc à toutes sortes d'interprétations, en fait.
Le concours de poésie est ouvert aux Mauriciens d'ici et d'ailleurs. Les envois sont attendus jusqu'au 11 décembre 2020. La remise du prix à la mi-2021 coïncidera avec le lancement du recueil des poésies primées lors des trois éditions depuis le lancement en 2016.
Vous vivez une crise, vous avez besoin d'aide, mais vous ne savez pas où vous adresser? Notre partenaire Yann, la thérapeute du cabinet Noir et Psy à Toronto, est là pour vous aider. Psychologue de formation spécialisée en approche interculturelle, Yann la thérapeute a une approche qui prend en compte l'aspect de la diversité culturelle, la langue et la compréhension des difficultés médicales de ses patients. Alors qu'on constate que la diversité culturelle et la langue française posent de vrais défis pour des cliniciens en santé mentale, la spécialiste et psychologue Yann la thérapeute a déjà fait ses preuves. Yann la thérapeute possède une expertise dans le traitement des problèmes complexes de santé mentale s'ajoutant aux difficultés d'adaptation. N'attendez plus, découvrez la clé du bien-être en toute discrétion. Abonnez-vous à ses blogs, à sa page Facebook. Noir et Psy avec Yann la thérapeute dans CUT 89,5 FM Popourri Show. Noir et Psy, la santé mentale sans tabou. Par téléphone, le 437 775-8767 ou visitez le site web www.noirepsy.org. Soyez intelligent. Contactez Noir et Psy, Yann la thérapeute. Aidez-vous maintenant. Noir et Psy en partenariat avec Popourri Show et CUT 89,5 FM, la radio comme je l'aime.
J'ai raté mon émission sur TV5 Monde.
Pour ne plus rien rater des programmes de TV5 Monde, tv5mondeplus.com. À vous de voir ou de revoir.
Chaque dimanche, soyez de la fête avec Popourri Show et RFI. Des entretiens musclés, des rendez-vous littéraires et culturels. Écoutez les voix du monde sur votre fréquence. Quelles sont les valeurs de la francophonie? Quels sont les enjeux de la francophonie? Qui sont les francophones de la planète? Qui sont les francophones de Toronto, de l'Ontario, du Canada? Qu'en pensent les jeunes, les femmes, les LGBT, les immigrants? 50 ans après sa création, comment se porte l'organisation de la francophonie internationale? Ici Eric Kader, je vous invite à Popourri Show, le magazine de la francophonie. L'émission phare sur CUT-FM, chaque dimanche de 11h à 13h, en partenariat avec le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne de la Faculté d'éducation de l'Université de Toronto, le CREFO, le Département d'études langagières, campus de Mississauga, Université de Toronto, la chaire de recherche du Canada en études des minorités, l'Université de Waterloo, les éditions prises de parole, Educ Nation Consulting Inc., Noir et Psy, Radio France Internationale, TV5 Monde, France 24. Écoutez, participez, devenez chroniqueur ou bénévole. Joignez-vous à l'équipe de Popourri Show en nous envoyant un message à popourri@cut.fm ou visitez notre site web popourrishow.com. Popourri Show, plus de 34 ans déjà sur CUT FM, la radio comme je l'aime.
Madame, how would you like your baguette with butter or marmalade?
Le mot nègre, il va dans n'importe quel bouche, il est dans le dictionnaire. Vous l'employez et vous en subissez les conséquences. Mais c'est pas le mot qu'il faut éliminer. Quand le livre était sorti en 1985, il avait provoqué, et pour les mêmes raisons, un débat à travers toute l'Amérique. Le mot nigro a été censuré par toute la presse américaine. Des noirs étaient contre moi. D'ailleurs, le NAACP, qui est une des plus puissantes organisations contre l'esclavage, contre le racisme aux États-Unis, aussi m'avait autant censuré que ceux qui étaient d'une certaine manière racistes. Cette censure avait fait de ce livre une célébrité mondiale. Alors si jamais on pense à le recensurer encore, bon Dieu merci. Le mot nègre, c'est un mot qui vient d'Haïti, pour ma part. C'est un mot qui veut dire homme, simplement. On peut dire ce blanc est un bon nègre. Donc le mot n'a aucune subversion. Quand on vient d'Haïti, on a le droit d'employer ce terme. Et personne d'autre ne peut. C'est un terme qui est sorti de la fournaise de l'esclavage et il a été conquis. C'est là la différence totale avec toute l'histoire du mot nègre. Si on le prend par les États-Unis, par les abolitionnistes, comme par les colonisateurs ou par les écrivains de la négritude, on rate l'histoire. L'histoire, c'est que pour la première fois dans l'histoire humaine, des nègres se sont libérés, des esclaves se sont libérés et ont fondé une nation.
Nous naissons dans la case des bâtons négriers. C'est là qu'est née l'histoire antillaise.
Et donc, revendiquer quelque chose qui pourrait être dérogatoire ou insultant ou qui pourrait vous diminuer et en faire exactement votre identité, c'est une des plus vieilles revanches humaines. Un écrivain a au moins un double travail à faire, d'actualiser, c'est-à-dire de devenir contemporain et en même temps de rappeler que les mots ont une origine, ils prennent naissance d'une réalité historique. Il ne faut pas perdre l'humour, quelque part aussi. Et il ne faut pas perdre aussi du souffle d'un mot. Dans les livres, si on enlève toutes les méchancetés de la bouche d'un méchant, il y aura perte de drame. En tant que lecteur, j'ai envie que tous les mots du dictionnaire puissent vivre. Et puis, je jugerai. Dans la bouche d'un blanc, n'importe qui peut l'employer. On sait quand on est insulté, quand quelqu'un utilise un mot pour vous humilier, pour vous écraser. Et puis on sait aussi quand c'est un autre emploi. Vous l'employez et vous en subissez les conséquences.
Et oui, madame, monsieur, bienvenue à Popourri Show, l'émission qui vous mène jusqu'au bout du monde. Nous venons d'entendre la voix de l'académicien et grand écrivain québécois d'origine haïtienne, Danny Laferrière. Selon lui, l'emploi du mot nègre est une vieille revanche. Le mot en haine, c'est comme ça qu'on dit dans certains médias. Un débat à la pointe de l'iceberg s'est enseigné dans le champ miné de l'arbitraire. C'est une lettre ouverte parue dans le journal Le Devoir le 24 octobre dernier, signée Will Prosper, de son vrai nom Viel Prosper. Il est réalisateur, travailleur social et militant antiraciste des droits civiques et antiraciste québécois, cofondateur de République Montréal Nord et de Woodstock. Il est chroniqueur au HuffPost et à la presse et correspondant québécois pour le magazine haïtien Challenges. Selon lui, le discours qui domine actuellement dans la majorité des médias est centré sur un faux débat, celui de la protection de la liberté académique qui n'est pas le vrai enjeu. Pourquoi ? Parce que c'est plus facile, dit-il, de s'insurger contre la perte potentielle ou imaginée d'un privilège détenu par des personnes en majorité blanche, plutôt que de mettre en lumière le contexte qui permet l'utilisation du N-word dans nos institutions, en sachant très bien que celui-ci peut porter atteinte à la dignité de certaines personnes déjà marginalisées, opprimées, victimes et de racisme systémique. Vous trouverez le lien de cette lettre ouverte sur notre site popourrichaud.com. Sur le plateau de Tout le monde en parle, à Radio-Canada, dimanche dernier, la professeure ayant provoqué un tollé après avoir prononcé le mot en N, le N-word, durant un cours universitaire, s'est excusée en direct. Plusieurs personnes de la communauté noire ont ensuite rappelé le poids déshumanisant d'un tel terme. La professeure de l'Université d'Ottawa réprimandée pour avoir prononcé le mot N-word est revenue sur l'une des affaires les plus débattues dans l'espace médiatique ces derniers jours. Le torchon brûle entre les enseignants francophones de l'Ontario issus de la diversité et l'AEFO. On en parle avec Blaise Gwendo-Yonsi, président de la nouvelle association ontarienne des professionnels de l'éducation de la diversité. La deuxième vague de cette crise sanitaire fait des dégâts en Europe, aux États-Unis, au Québec. L'Ontario fait partie des zones à risque. Et oui, personne ne peut prédire à ce jour l'évolution de cette pandémie, mais à supposer qu'elle se poursuive au cours des prochains mois, il est probable que certains systèmes éducatifs passent à l'instruction radiophonique interactive. C'est le résultat d'un débat, d'une réunion avec nos confrères en France cette semaine. C'est à suivre. Puis je vous rappelle qu'en Ontario, jusqu'à 25% des parents ont choisi l'enseignement à distance pour leurs enfants. Au Québec, la présence en classe demeure obligatoire, sauf exception. Notre partenaire, le CREFO, à son tour, a dû ajuster ses activités et le CREFO innove. Pas question d'organiser des conférences ou des forums sur le campus. Quoi de neuf? Les Cafés du CREFO est une série de podcasts mettant en vedette des professeurs, chercheurs, des gens engagés dans différents domaines. Une toute nouvelle initiative. À qui s'adressent ces podcasts? Quelles sont les thématiques? Quelles sont les attentes du CREFO? Comment se passe la vie à l'ère Covid-19 au CREFO? On en parle tout de suite avec la très sympathique, dynamique Dr. Emmanuelle Lepuchon-Wortzmann, les directrices du Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, spécialisée dans des questions d'éducation inclusive et de diversité culturelle. Et elle a aussi travaillé en tant que consultante, chercheuse, évaluatrice, examinatrice, ça se dit, oui, pour plusieurs organisations et revues internationales. En 2015, son rapport de recherche a été au centre d'un débat au Parlement néerlandais qui a conduit à l'obtention d'un financement important en faveur des apprenants réfugiés aux Pays-Bas. Elle est l'animatrice de ses podcasts Quoi de neuf, les Cafés du CREFO. Allez, nous l'appelons tout de suite.
Hello?
Oui, bonjour, je pourrais parler au professeur Emmanuel Lepuchon-Wortzmann, s'il vous plaît.
Oui.
Bonjour, vous êtes en direct actuellement sur la radio, alors bienvenue et c'est tout un plaisir. Alors je sais que c'est pas évident avec la pandémie qui reprend son envol, ça doit être un peu difficile pour vous et vos membres, n'est-ce pas?
Ben oui, effectivement, on a dû trouver de nouvelles solutions, aller du côté de l'innovation.
Exactement, c'est tout un plaisir de parler. Moi, j'étais agréablement surpris quand j'ai reçu cette petite lettre qui parle de ce nouveau podcast intitulé « Quoi de neuf ?»« Les Cafés du CREFO ». Alors, ce sont des cafés virtuels, n'est-ce pas?
Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, l'une des missions des CREFO, c'est d'organiser des conférences sur les thèmes de francophonie, diversité, éducation, avec des chercheurs venant de partout. Mais avec la pandémie, on a été un peu coincés. Alors, comme on organisait déjà des cafés qui étaient devenus virtuels, on s'est dit, ben, pourquoi pas aller plus loin et puis organiser quelque chose qui permette à ces conférences de devenir à la fois viable en temps de Covid et voilà d'isolation, mais aussi peut-être d'atteindre un public plus large que celui qu'on ramenait l'Institut lors de nos conférences.
Oui, quels sont les grands thèmes que vous voulez développer à travers ces conférences virtuelles?
Alors, il y en aura plusieurs, hein, il va y avoir plusieurs séries, mais la première série s'inscrit dans le thème francophonie, diversité et éducation. Et aussi le thème d'un séminaire qu'on propose au CREFO pour nos étudiants gradués. Alors, il y a eu une professeure d'université d'York, il y a eu une professeure d'université de Berkeley en Californie, il y a une professeure de l'université d'Ottawa, le podcast vient de sortir ce matin. Voilà, on invite très largement en fait, parce que l'idée c'est vraiment de comprendre mieux la situation du français, la situation, cette situation de diversité à laquelle, dans laquelle nous vivons aujourd'hui, par le biais de perspectives diverses. Et donc, si on veut du divers, eh ben, il faut aller chercher dans d'autres contextes aussi. Alors, bien sûr, on inclut les gens qui travaillent ici, hein, à Toronto, en Ontario, parce que c'est vraiment le cœur de notre question. Mais en fait, on va aussi les chercher plus loin. Dans le reste du monde.
Oui, je pense que j'en ai raté sans doute, j'étais en voyage entre la Bretagne et Toronto, j'en ai raté plusieurs de vos podcasts, alors il faut nous tenir au courant plus régulièrement possible, parce qu'on aimerait beaucoup en parler à l'émission, faire de la promo sur nos sites, nos plateformes virtuelles, comme vous le savez, et comme nous sommes partenaires, n'est-ce pas, c'est tout à fait normal qu'on parle de vous. Alors, vous savez que depuis cette pandémie, ça fait quoi, 8 mois environ, mais c'est vraiment partout à travers le monde, on se connaît maintenant. On se parle beaucoup plus. Des fois, on dit un mal pour un bien. Est-ce que vous voyez qu'il y a un intérêt de la part de la population francophone, que ce soit de l'Ontario ou d'ailleurs, de participer à vos podcasts, de réagir? Quelles sont les réactions, justement, des participants?
Oui, tout à fait. Alors, je vais prendre votre question au début. Il me semble qu'on a tous, et c'est normal, une tendance à l'ethnocentrisme. Hein, c'est-à-dire qu'on est tous préoccupés par nos propres problèmes dans l'immédiat, ici, dans notre contexte. Et en fait, l'idée de voilà, les problématiques de recherche que nous avons au CREFO se sont toujours tournées vers ces questions de diversité, de francophonie et d'éducation. Mais en fait, la pandémie a fait que les rencontres que nous avions voilà, dans un contexte précis qui était celui de Toronto et de l'Institut se sont élargies à quelque chose de beaucoup plus large. Maintenant, on peut inviter des gens du monde entier et non seulement ça, mais on a des gens qui nous écoutent dans le monde entier. Par exemple, on a des auditeurs très fidèles dans le Moyen-Orient.
Oui.
On peut voir ça maintenant. Donc, c'est très sympathique parce que finalement, on se rend compte que les rencontres, bah, ça a toujours été le cas, mais les rencontres entre les gens et les langues sont complexes. Et pour mieux les comprendre, il faut mettre en contact des imaginations culturelles, des mémoires sociales et politiques différentes, parce que nous ne partageons pas forcément la même compréhension de la réalité sociale dans laquelle nous vivons. Et donc, cette pandémie nous donne l'occasion de rassembler voilà, des perspectives extrêmement variées, une opportunité que nous n'avions pas autrefois. Alors, ce que je recherche maintenant, ce que nous n'avons pas encore, c'est plus de réactions au podcast. On demande beaucoup aux auditeurs, est-ce que vous pouvez nous laisser des commentaires? Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que ça vous a apporté quelque chose? Mais voilà, on n'a pas encore eu de... Alors, j'ai eu des réactions de vive voix, mais pas encore de réactions écrites, voilà.
Oui.
Ça, ce serait merveilleux.
Nous sommes en compagnie, madame, monsieur, avec le professeur, docteur Emmanuel Le Pichon-Wortzmann, directrice du Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, à l'Université de Toronto. Vous avez un bagage culturel, éducatif très intéressant. On vous a rencontré d'ailleurs dans le passé à notre antenne. Et parlez-nous un petit peu justement. Alors, vous parlez justement de la diversité des auditeurs. Nous venons de clôturer le mois du créole en ondes. Pendant tout un mois, on a fait un battage publicitaire à l'échelle de la planète, il faut bien le dire. Et là, vous avez parfaitement raison. On ne sait jamais qui nous écoute sur le web. On a reçu des réactions, mais vraiment de vives réactions de l'île de la Réunion, de Maurice, de l'Australie, de la Chine, de différents endroits en Chine, mais aussi de l'Allemagne, de la Russie. Beaucoup de Russes nous écoutent. Des États-Unis, bien sûr.
Parce que vous parliez, alors votre mission hein, rejoint la nôtre et c'est pour ça qu'on se
aide
bien, je pense, et puis qu'on se soutient. Mais je suis heureuse que vous parliez de l'île Maurice. C'est intéressant parce qu'en ce moment, nous avons au CREFO et dans mon séminaire un étudiant de l'île Maurice qui me disait mais l'enseignement du français, pourquoi ça marche à l'île Maurice, pourquoi ça marche pas ici? Et on a plein de langues à l'île Maurice. Alors peut-être que c'était résumé un peu rapidement,
ouais.
Mais je pense qu'effectivement, la confrontation de ces réalités permet de se poser la question de savoir, ok, comment est-ce qu'on peut revoir l'enseignement de la langue, hein, vous savez, parce qu'on parle de la langue française, quelle langue finalement faut-il enseigner, quelle culture, etc. Alors dans notre contexte anglophone, avec une communauté francophone. Et puis, même si c'est toujours une réalité politique, dans le sens cette opposition tente à continuer à influencer la mise en place des institutions officielles, en fait, on se rend compte que c'est plus du tout la réalité des gens. Hein, on a des gens ici qui viennent de partout, qui se rencontrent, et des rencontres qui sont complexes. Et donc, une langue, alors est-ce qu'on peut dire les langues françaises, la langue française, etc. Mais voilà, on revient à ce que je disais tout à l'heure. La langue qu'on considère et qu'on a toujours considéré comme un système standardisé, en fait, c'est une pratique sociale et culturelle.
Exactement.
Donc, c'est une pratique sociale et culturelle. Qui sommes-nous? Qui sont ces gens qui la pratiquent en Russie, à l'île Maurice, à Madagascar, aux États-Unis, en France ou même ici? Donc voilà, considérer la langue comme une pratique nous conduit à repenser notre position dans le contexte dans lequel nous vivons, et en particulier les rencontres. Hein.
Oui.
Quelle identité, quelle identification, blablabla. Je pourrais en parler pendant des heures.
Oui. Et aussi, au lieu de toujours parler de nos différences, je pense qu'il faut parler de ce qui nous unit vraiment. Qu'avons-nous en commun, hein?
Exactement.
Ça c'est le titre d'une nouvelle émission. Hein. On pourra faire une émission « Qu'ont-ils en commun ? Qu'avons-nous en commun ?»
Exactement. Et le but de ce podcast et de votre émission aussi, c'est de se rencontrer. Hein.
Ouais.
Se rencontrer, ça veut dire essayer de voir effectivement ce qu'on a en commun, ce qu'on peut comprendre.
Exactement.
En général, on comprend mieux ce qu'on reconnaît.
Donc les gens peuvent s'abonner, hein, directement sur votre site. Oui, oui. Alors, de toute façon, Sylvain, si les gens décident, sont très intéressés, d'ailleurs, j'aimerais que les gens réagissent et qu'ils nous envoient un petit message de cette conversation qu'on a en ce moment. C'est une bonne façon de savoir qui nous écoute, n'est-ce pas? Alors, ils peuvent aller sur notre site popourichaud.com et là, vous aurez toutes les informations de ce nouveau podcast du CREFO, Quoi de neuf? Et donc, vous avez, malgré la pandémie, les gens ne sont pas en classe, hein. Il n'y a personne là qui sont dans les salles de classe à ces jours-ci, n'est-ce pas?
Alors, vous voulez dire à l'université?
Oui.
Non, effectivement, à l'université, non, chacun est chez soi, mais en fait, on se rencontre maintenant, ce sont des rencontres virtuelles. Hein.
Oui.
Virtuelles, mais bien réelles.
Oui, oui. Et comment voyez-vous, professeur, la suite des choses? Parce que là, je vois qu'il y a des gens qui ont le moral assez bas. Ils ne savent pas à quoi se tenir, de quoi va se composer l'avenir. Et comment vous, personnellement, voyez-vous l'avenir du monde de l'éducation?
Vous avez tout à fait raison. Le plus difficile aujourd'hui, c'est de ne pas pouvoir faire de plan. Hein, alors, on veut faire des plans sur l'avenir, mais on ne peut pas parce qu'on ne sait pas ce que sera l'avenir. Cela dit, vous savez, il y a deux manières d'aborder la question. La première, c'est de voir toutes les difficultés que l'on rencontre. Et dans ce cas-là, on va avoir une vision à très court terme, et en particulier qui va nous pousser à agir tout le temps dans l'urgence.
Mmh.
Dans l'éducation, ce n'est pas du tout ça qu'il faut faire. Dans l'éducation, il faut continuer à essayer d'avoir une vision à long terme, c'est-à-dire de voir tout ce dont vous parliez au début, c'est-à-dire tout ce que peut nous apporter une situation nouvelle comme celle-là. Et moi, je pense que ce qui est formidable dans cette expérience, c'est que ça fait plus de 20 ans qu'on a l'Internet à notre disposition, qu'on a cet espace virtuel à notre disposition, et qu'en fait, on se rencontre, et on se rencontre avec effarement que dans l'éducation, on en a fait très, très peu l'usage.
Mmh.
Et donc, on est obligé, tout d'un coup, on a été forcé de se dire, mais comment est-ce qu'on va intégrer ça à l'apprentissage, à l'enseignement? Et je pense que c'est une formidable opportunité qui va bien au-delà de cette pandémie. Qu'on va sortir, si on sait l'apprendre dans le long terme, nous sortirons de cette pandémie plus fort encore, avec une éducation plus solide, et en particulier une éducation à la francophonie.
Alors, tout un plaisir encore de vous recevoir. Une série de podcasts, madame, monsieur, avec des chercheurs, des chercheuses, des acteurs, des actrices en éducation, des invités, pas seulement de Toronto, de l'Ontario, mais aussi du monde, hein, du monde de l'éducation.
Oui, tout à fait. Et je vous remercie beaucoup. Et puis, si les auditeurs ont des désirs par rapport à ces podcasts, qu'ils nous les fassent connaître.
Oui. Alors, docteur Emmanuel Lepuchon-Wortmann, merci infiniment. Que la force soit avec vous.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Écoutez la planète chanter.
Oh,
yeah,
Salah,
oh, yeah,
Salah,
Turquoise, après là ton souvenir.
Ay, maman, voilà le voyage.
Adra bella cosa, adra bella cosa, ding-a-dong.
Ding-a-dong.
Écoutez la planète chanter.
Du 16 au 22 novembre, CUTFM revient avec sa campagne de dons. Malgré la saison automnale très particulière, cette année, la campagne MTA Radio bat son plein et compte sur vous pour garder l'antenne. Faites un don à notre émission en visitant le site web cut.fm. Aidez-nous à garder Popourri Show, la seule et l'unique émission en français sur les ondes de la radio du campus de l'Université de Toronto. Du 16 au 22 novembre, la collecte de dons automnale MTA Radio bat son plein. Allez, on vous attend en grand nombre. Faites un don maintenant en visitant cut.fm. Cliquez simplement sur le bouton « Faire un don » et aidez-nous à garder le son de votre ville en ondes. Depuis 1966, CUTFM est à vos côtés. Aujourd'hui, plus que jamais, la radio compte sur vous, compte sur toi. La radio vous lance un appel à faire un don du 16 au 22 novembre. Aime ta radio et fais un don en ligne en toute sécurité en visitant le site web cut.fm. CUTFM, la radio comme je l'aime.
Même en étant au pouvoir, Donald Trump fait comme s'il n'était pas au pouvoir.
C'est en reprenant la rue que les démocrates ont repris confiance en eux.
Il y a de plus en plus d'hommes et de femmes blancs et éduqués qui payent pour se faire expliquer pourquoi, en réalité, leurs comportements sont racistes.
10 semaines avant l'élection présidentielle américaine, La Croix a demandé à Alexis Buisson, son correspondant aux États-Unis, de nous aider à saisir les enjeux et les tendances qui font l'Amérique d'aujourd'hui.
Je suis Alexis Buisson, le correspondant de La Croix à New York. Je suis venu vivre aux États-Unis quand Barack Obama était sur le point d'être élu. Puis Donald Trump, en 4 ans au pouvoir, a transformé le pays pour le meilleur comme pour le pire. Pour vous raconter cette Amérique qui surprend, déconcerte, déçoit ou ravit, j'ai parlé avec des experts, des journalistes et des militants, fins observateurs de ce pays toujours aussi fascinant. Je vous donne rendez-vous chaque semaine dans ces salles Amérique.
C'est ça l'Amérique, un podcast original du journal La Croix, en partenariat avec French Morning et le programme Alliance Columbia.
The American Dream.
We just have to remember who we are. My Lord, this is the United States of America.
À écouter chaque vendredi à partir du 4 septembre jusqu'à l'élection présidentielle américaine sur toutes les plateformes, sur le site et l'appli La Croix.
President that God ever created. CIUT 89.5 FM, the station that brings you Democracy Now! With Amy Goodman, Monday to Friday, 10 to 11 a.m.
CIUT 89.5 FM, the sound of your city. Your radio, CIUT 89.5, the sound of your city.
What do the francophones want? Chaque dimanche, soyez de la fête avec Popourri Show sur CUT 89.5 FM. Écoutez les voix du monde sur votre fréquence. Des entretiens musclés, des rendez-vous littéraires, culturels. Quelles sont les valeurs de la francophonie? Quels sont les enjeux de la francophonie? Qui sont les francophones de la planète? Qui sont les francophones de Toronto, de l'Ontario, du Canada? Qu'en pensent les jeunes, les femmes, les LGBT, les immigrants? Ici Eric Allaire. Je vous invite à Popourri Show, le magazine phare sur CUT 89.5 FM. Chaque dimanche, de 11h à 13h, en partenariat avec le Centre de Recherche en Éducation Franco-Ontarienne de la Faculté d'Éducation de l'Université de Toronto, le Département d'études langagières campus de Mississauga, la Chaire de Recherche du Canada en études des minorités à l'Université de Waterloo, les éditions Prise de Parole, Educ Nation Consulting Inc., Noir et Psy, Radio France Internationale, TV5 Monde, France 24. Écoutez, participez, devenez chroniqueur ou bénévole. Joignez-vous à l'équipe de Popourri Show en nous envoyant un message à popourri@cut.fm ou visitez notre site popourrishow.com. Pot pourri chaud, plus de 34 ans déjà sur CUT 89,5. La radio comme je l'aime.
C'est la première fois que RFI est massivement en Haïti dans une grande opération de décentralisation avec Claire Hédon pour Priorité Santé, avec Yvan Amar pour La Danse des Mots, avec Anne-Cécile Bras pour Ses Pas du Vent, mais aussi avec la tranche d'info Haïti-Amérique qui vient d'être créée il y a quelques mois sur la chaîne. C'est un moment important parce que nous allons à la rencontre d'auditeurs qui sont francophones et qui ont un rapport assez passionnel, comme les auditeurs africains finalement, avec cette radio qui, certains disaient, les distrait de leur quotidien. Et quand on est énervé localement, on va écouter RFI. C'est une radio qui ouvre des portes, qui ouvre des horizons et qui met les pendules à l'heure, disait un auditeur.
Du 16 au 22 novembre, CUT-FM revient avec sa campagne de dons. Malgré la saison automnale très particulière, cette année, la campagne MTA Radio bat son plein et compte sur vous pour garder l'antenne. Faites un don à notre émission en visitant le site web cut.fm. Aidez-nous à garder Popourri Show, la seule et l'unique émission en français sur les ondes de la radio du campus de l'Université de Toronto. Du 16 au 22 novembre, la collecte de dons automnale MTA Radio bat son plein. Allez, on vous attend en grand nombre. Faites un don maintenant en visitant cut.fm. Cliquez simplement sur le bouton « Faire un don » et aidez-nous à garder le son de votre ville en ondes. Depuis 1966, CUT-FM est à vos côtés. Aujourd'hui, plus que jamais, la radio compte sur vous, compte sur toi. La radio vous lance un appel à faire un don du 16 au 22 novembre. Aime ta radio et fais un don en ligne en toute sécurité en visitant le site web cut.fm. CUT-FM, la radio comme je l'aime.
Pouvoir danser, c'est le plus grand signe de liberté. Pouvoir chanter, c'est le pouvoir même de la liberté. Muntu. On a quitté nos pays en grand nombre, laissant derrière nous cette tunnel sombre. La fin justifie les moyens. On prend la mer, déterminé à échapper à la misère. Même si on fait les derniers mètres à la nage, notre but c'est d'atteindre l'autre rivage. Qu'importe les orages, chers dirigeants, qu'à nos yeux croisent l'Occident. On saute la liberté, on crie la liberté, on danse la liberté, c'est la liberté. On saute la liberté, on crie la liberté, on danse la liberté, c'est la liberté. Laisse-moi chanter, laisse-moi danser, laisse-moi goûter ma liberté. Moi je viens de loin, je viens de loin, tais-moi de loin. Oh, oh, oh. Il y a des politiciens et des groupes armés. On est venu en traversant la Méditerranée. Certains s'énoient sans laisser aucun indice, car surchargés sur une pirogue des moins d'élite. C'est les champs pour tous ceux qui cherchent la liberté, pour ceux qui laissent tout derrière eux pour une vie meilleure, pour ceux qui traversent un long tunnel pour voir le soleil, pour ceux qui tiennent les coups malgré les manques de sommeil. On saute la liberté, on crie la liberté, on danse la liberté, c'est la liberté. On saute la liberté, on crie la liberté, on danse la liberté, c'est la liberté. Laisse-moi chanter, laisse-moi danser, laisse-moi goûter ma liberté. Moi je viens de loin, je viens de loin, tellement de loin. Oh, oh, oh. Laisse-moi chanter, laisse-moi danser.
besoin, témoin de moi. C'est l'une des immigrés, c'est l'une des expatriés, c'est l'une des arrivistes qui ne cherche qu'à chanter. C'est l'une des immigrés, c'est l'une des expatriés, c'est l'une des arrivistes qui ne cherche qu'à danser. Laisse-moi chanter, laisse-moi danser, laisse-moi goûter ma liberté. Moi je viens de loin, je viens de loin, tellement de loin. Oh, laisse-moi chanter, laisse-moi danser, laisse-moi goûter ma liberté. Moi je viens de loin, je viens de loin, tellement de loin.
Et oui, nous venons d'entendre Eléo Muntu de son album Réflexion. Il habite dans la région d'Ottawa et le titre de sa chanson Hymne des immigrés que j'aime bien. Vous écoutez une émission spéciale aujourd'hui dans le cadre de Tabou sans tabou. On parle de ce mot, le mot haine. Et oui, on en parle avec nos amis tout à l'heure à Paris. Un petit reportage. Pourquoi l'utilisation du mot nègre est toujours tabou? Comment nos amis dans les médias français traitent-ils ce sujet délicat et sensible? Et puis à venir vers la fin de l'émission, le clip qui fait le buzz en ce moment au Québec, Vas-y Molo, c'est une très belle chanson de notre ami artiste Richie J, artiste d'origine haïtienne qui vit à Montréal, qui a remporté d'ailleurs plusieurs prix au Québec, mais aussi à Toronto il y a quelques années. Vous avez un sujet ou un scoop à nous partager, veuillez nous écrire à popourri@cut.fm. Depuis plus de 2 ans, un groupe d'enseignants dénonce une quasi-absence d'inclusion et de diversité ethnique et culturelle parmi les dirigeants, employés, représentants syndicaux de l'Association des enseignantes et enseignants franco-ontariens, l'AEFO. Le comité des enseignantes et enseignants franco-ontariens issus de la diversité ethnoculturelle a fait parvenir une lettre ouverte, c'était le 29 juin 2020, à des politiciens et associations dénonçant cette situation. Mais malheureusement, tout est resté sans succès, même pas un suivi. Et dans un article paru sur le site web de Radio-Canada, Clément Yonta Ingune, membre du comité des enseignantes et enseignants franco-ontariens issus de la diversité ethnoculturelle, dit, et je cite, « La frustration est énorme au sein de la communauté. Pourquoi nous ne pouvons pas être inclus au sein de ce syndicat ?» Nous ne sommes pas valorisés au sein de notre syndicat. Pourquoi? Nous sommes compétents qu'on nous donne la possibilité d'avoir des postes de cadre, des responsabilités. Malgré toutes les politiques et bonnes pratiques émises par le gouvernement de l'Ontario, les responsables de l'AEFO semblent les ignorer. Nous avons tenté à plusieurs reprises d'inviter les dirigeants de l'AEFO à nos micros sans succès. L'Ontario change à une vitesse incroyable, la francophonie évolue, mais il me semble que dans certains secteurs, certains quartiers, les choses n'avancent pas si vite. Les enseignants francophones de l'Ontario issus de la diversité ont finalement décidé de créer leur propre association, l'Association ontarienne des professionnels de l'éducation de la diversité, AOPED, fondée, c'était au mois de septembre. Pourquoi l'AEFO ne répond pas aux doléances de ses membres, issus de la diversité? Où en est la plainte des enseignants francophones de l'Ontario issus de la diversité contre l'AEFO, plainte à déposer au tribunal des droits de la personne de l'Ontario? On en parle tout de suite avec Blaise Gwendo-Yonsi, président de l'Association ontarienne des professionnels de l'éducation, de la diversité et enseignant à l'école secondaire 7 Famille à Mississauga, une ville un peu à l'ouest de Toronto. Ici Eric Kader de CUTFM, auriez-vous quelques minutes à m'accorder?
Oui, c'est M. Eric. Ça.
Oui, exactement. Okay. Alors, vous êtes le nouveau président de la toute nouvelle Association ontarienne des professeurs de l'éducation de la diversité. Bravo, félicitations. Une association créée au mois d'août 2020 après des tensions, il faut bien le dire, et même des reproches que vous avez fait à l'Association des enseignantes et enseignants francophones de l'Ontario, l'AEFO. Et votre groupe de suivi des enseignants de la diversité ethnoculturelle de l'Ontario a même déposé une plainte au tribunal des droits de la personne de l'Ontario. On aura l'occasion d'en parler un peu plus tard. Et selon mes notes, votre association est très bien structurée avec une représentation à l'échelle provinciale. La grande question que tous les francophones, tous les auditeurs se posent, nous sommes très minoritaires en tant que francophones en Ontario. Le monde de l'éducation traverse des moments très difficiles, surtout en cette période de pandémie. Pourquoi une nouvelle association et avez-vous tout essayé pour trouver un terrain d'entente avec l'AEFO?
Oui, merci, M. Eric, pour cette question. Je veux commencer par vous dire que nous savions, nous sommes minoritaires, comme vous le dites, en Ontario. Et nous savions que nous étions un peu mal aimés dans le monde de l'éducation. Et nous savions que nous étions un peu comme des auxiliaires hein, en matière d'éducation. Mais ce qui nous a amené véritablement donc à mettre sur pied cette association, c'est cette assemblée annuelle du 23 février 2019, là où un sondage de l'AEFO a fait des enseignants issus de la diversité. Des enseignants incompétents. Donc, cette information, nous l'avons vraiment vécue avec un véritable émoi, c'est vraiment un cataclysme. Et donc, nous avons tenté par plusieurs reprises, donc avec l'AEFO, d'obtenir des clarifications sur cette qualification à tout le moins regrettable, mais nous n'avons pas pu avoir des solutions. La preuve, c'est que à la suite donc de l'application de ce rapport, nous avons sollicité une rencontre avec le président de l'AEFO à travers une lettre que nous avons adressée à leur demande, à leur soumettant nos cartes d'oléances. Malheureusement, l'AEFO n'a pas daigné nous accorder cette possibilité de leur exposer vraiment ce que nous pensions de ce rapport et ce que nous pensions de ce que nous sommes. Donc, à la suite donc, de ce refus, j'ai envie de dire, de ce mépris caractérisé, nous avons dit, bon, dans ce cas, donc, nous sommes obligés de nous organiser pour pouvoir donc, nous faire connaître véritablement donc, et nous démarquer donc, de cet AEFO qui a visiblement donc, a failli à sa mission donc, de protéger tous ses membres.
Voilà. Ouais. Mais vous savez, c'est toute une décision, hein, et ça demande des démarches juridiques pour créer une association, un genre de syndicat finalement, pour les enseignants issus de la diversité en Ontario. Est-ce que cela veut dire que vos collègues à l'AEFO vous ont fermé la porte?
J'ai envie de dire oui, parce que figurez-vous que c'est depuis ce 23 février que nous avons adressé une lettre à l'AEFO, au président de l'AEFO. Donc ça fait environ combien de temps? Ça fait un an, 8 mois déjà. Nous avons adressé cette lettre-là à l'AEFO pour dire que voilà, nous sommes prêts à vous rencontrer, à même nous discuter en tête à tête. Mais l'AEFO a toujours pensé que nous étions donc un groupuscule d'individus tapis dans l'ombre pour agiter, pour faire de l'agitation. Nous l'avons dit, non, ce groupe de suivi-là, elle représente, si vous voulez, donc cette minorité dont vous méprisez et que dont nous pouvons parler, pas encore en leur nom, mais nous pouvons parler parce que nous estimons que nous sommes également donc issus de cette diversité-là. Donc je vous dis donc jusqu'au jour d'aujourd'hui où je vous parle, donc l'AEFO n'a pas daigné nous donner cette opportunité donc d'avoir un tête-à-tête avec eux pour le dire véritablement ce que nous disions. Parce que dans notre lettre où nous demandions donc cette entrevue, cette rencontre, je vous ai dit qu'il y avait 4 doléances. Donc la première doléance c'était d'abord que l'AEFO s'excuse de cette bourde-là qu'ils ont faite en nous qualifiant donc d'incompétents, si vous voulez. Mmh. Et que donc deuxième doléance, c'est que les données qui étaient issues donc, de ces rapports sont détruites parce qu'à mon humble avis, en tant que statisticien, donc ça ne reposait sur aucune méthodologie scientifique.
Ouais. Voilà. Vous savez que je suis ici depuis 40 ans, ça fait très longtemps qu'on entend des histoires qui se passent dans le monde de l'éducation, mais souvent tout est étouffé, ou encore il y a des gens qui ont été transférés, des gens qui ont été remerciés avec une grosse somme d'argent, des parachutes dorés. Comment avez-vous eu ce courage avec tous vos membres pour aller jusqu'à fonder votre association. Et quelle est la réaction des membres de l'AEFO?
Pour l'instant, nous n'avons pas encore reçu de réaction des membres de l'AEFO parce que nous n'avons pas encore adressé officiellement une lettre pour leur signifier donc de la création de notre association. Vous l'avez vous-même dit, il y a juste 2 mois que l'association a été légalisée. Et pour l'instant, donc, il a fallu que nous durions à l'interne. Après, dans cette structuration interne, donc maintenant, on va passer à la phase donc, de visualisation avec toutes les autres, avec toutes les structures environnantes, donc, y compris l'AEFO.
Alors, pour les auditeurs qui nous écoutent, selon un énoncé de la Commission des droits de la personne de l'Ontario, il incombe aux employeurs, aux syndicats, aux fournisseurs de services ainsi qu'aux autres types d'organisations visées par le Code des droits de la personne de l'Ontario de veiller à ce que leur milieu soit exempt de harcèlement, de discrimination. Cela signifie non seulement réagir aux problèmes de discrimination ou de harcèlement qui surviennent, mais également adopter des mesures proactives pour surveiller et prévenir leur présence. Votre plainte, déposée il y a quelques mois au Tribunal des droits de la personne de l'Ontario, a été bien reçue. Où en sont les choses aujourd'hui?
Nous attendons toujours donc la réaction donc, de cette commission, dont nous avons déposé une plainte, et nous faisons croire qu'elle est en train de suivre son chemin. Vous savez très bien l'adage qui dit que lorsque la justice tarde à venir, c'est qu'elle va chercher donc, la raison un peu plus loin. Voilà. Donc, nous ne maîtrisons pas tout le circuit de vérification des informations, mais nous faisons croire qu'elle est en train de suivre son cours, et nous attendons donc impatiemment. Nous en sommes informés donc, des résultats.
Vous savez, récemment, sur le site de Radio-Canada, nous avons pu lire qu'il y a un enseignant qui a eu des démêlés avec l'Association des enseignants francophones de l'Ontario. Je pense que c'est dans la région de Barrie, Peterborough, je ne sais pas. Enfin, c'est dans en Ontario. Et quels sont les prix est-ce qu'il y a un lien avec votre association, avec votre groupe?
Non, pas du tout. Il n'y a pas de lien à ce niveau-là parce que notre groupe vient d'être officialisé il y a 2 mois et que
parce que ce monsieur est aussi issu. Oui, ce monsieur est aussi issu de la diversité et il siège, je pense, au niveau de la direction de l'AEFO. Et il se paraît que l'AEFO n'a pas aimé sa relation ou une information qu'il a partagée aux membres ou aux autres professeurs. Et c'était dans les journaux, je ne sais pas si vous l'avez lu, alors je pense.
Oui, je peux vous dire d'ailleurs qu'il s'agit d'un président de l'unité de l'AEFO.
Voilà.
Le seul qui soit issu de la diversité et qui soit l'objet qui a été suspendu pour des raisons farfelues, comme vous venez de le signaler, pour avoir divulgué une information alors qu'il n'avait pas le droit de le faire. Mais dites-moi, M. Eric, en tant que président de l'AEFO, c'est-à-dire en tant qu'un membre, un cadre de l'AEFO, et qui donne une information qui entre dans le cadre de l'exercice de sa fonction, on le suspend cela. On le suspend donc de l'AEFO pendant jusqu'en décembre prochain. Donc c'est encore une preuve patente donc de ce que je disais tout à l'heure, là, c'est qu'on est des mal-aimés dans ce métier-là. Il faut donc qu'on le dénonce véritablement.
Oui, comme au Québec, 20% des professeurs ontariens quittent la profession 5 ans à peine après être entrés sur le marché du travail. Et la pandémie est venue accentuer cette tendance. Comment est le moral de vos membres en ce moment?
Ma profession, par exemple, m'amène à penser qu'il me faut des statistiques pour le confirmer. Mais je peux tout de même risquer en disant que le moral n'est ni au beau fixe ni au mauvais fixe. Parce que tout ce que nous savons faire, ce n'est qu'enseigner. Ça veut dire que malgré donc les embûches, malgré les difficultés, malgré les obstacles, nous nous levons le matin avec la conviction que voilà notre métier, voilà notre profession, et malgré tout cela, donc nous allons le faire pour le bien-être des élèves dont les parents nous font confiance donc, de les encadrer. Donc ça veut dire que c'est vrai, on a des difficultés là, mais ça ne va pas nous empêcher de faire donc notre travail comme nous le faisons. Comme quand je vous le dis une fois de plus, ce n'est que la seule chose que nous pouvons faire de mieux et de bien.
Oui. Et vous avez un bagage, un parcours quand même assez intéressant. Hein. Vous avez étudié à Paris, Vous avez eu aussi un brevet de l'Université Laurentienne à Sudbury. Vous êtes enseignant titulaire à l'école secondaire Sainte-Famille à Mississauga, et, où vous enseignez les sciences sociales. Est-ce que les gens comme vous sont bien traités d'après vous? Parce que moi, ce que j'ai entendu dans le passé, les gens sont à des petits contrats et souvent, ils ne sont pas reconnus pour leur talent et aussi tout le bagage culturel et éducatif qu'ils apportent avec eux.
Oui, ça, on a vraiment fait langue de bois. Je peux vous dire que dans mon conseil scolaire, nous sommes évidemment bien traités. Et donc les mesures sont mises en place pour respecter la notion donc des genres et des minorités. Et encore plus donc dans mon école catholique, dont mon école Sainte-Famille dont vous venez de faire mention, j'ai pu vous assurer que la direction vraiment met tout en œuvre pour que les choses se passent de façon équitable. Mais est-ce que cela suffit pour toute la province de l'Ontario? C'est ça tout le problème. On peut bien, nous sommes bien traités à Sainte-Famille, nous sommes bien traités au conseil Mon Avenir, mais est-ce vraiment le cas dans les autres conseils? Donc, ce serait peut-être égoïste de ma part de tout simplement donc me satisfaire de cet encadrement dont nous bénéficions en cette famille au conseil Mon Avenir. C'est pour cela que nous battons pour les autres.
Oui.
Donc, des comptes beaucoup, donc, tout simplement à la couleur de l'impôt.
Il faut rappeler aux gens que tout ça a démarré lors d'un sondage d'une assemblée annuelle qui s'est déroulée à Mississauga il n'y a pas tellement. Voilà. C'était dans les journaux, les médias, on en a parlé, c'était à Radio-Canada, partout. En tout cas, bravo et bon courage à vous, à vos membres. Alors, si vous avez les noms des personnes qui sont représentatifs à travers la province, je ne sais pas, parce que vous avez eu une réunion le 19 septembre dernier, et là, vous avez mis en place un comité exécutif constitué de 7 membres. Et d'ailleurs, les gens ont des responsabilités comme conseiller, trésorier et tout ça. Et vous avez une bonne représentation au niveau de la province.
L'Afrique du Nord, les océans, les Antilles, l'Afrique du Sud, l'Afrique australe, donc toutes les régions où les minorités du Canada proviennent,
oui. Oui. Et donc, vous avez des représentants pour la section Est de l'Ontario, section Sud-Ouest.
Voilà.
Et vous attendez peut-être d'avoir des représentants pour la région du Nord.
Et du Grand Nord.
Et du Grand Nord. Et puis, Timmins, North Bay, tout ça. Alors, ça fait du monde.
Hein? Oui.
Alors, quelles sont les prochaines étapes?
D'envoyer donc une lettre aux autorités, notamment au Premier ministre de l'Ontario, au ministre de l'Éducation et aussi à l'AFO. Ça, c'est la prochaine étape de la semaine prochaine là. Parce qu'il est question pour nous donc de leur signifier donc notre développement, la création de notre association, pour leur dire que voilà, nous sommes donc disposés à les assister, à les accompagner donc dans la compréhension des problèmes et défis que vivent les enseignants dans la diversité, et que nous sommes également donc, nous avons également de nombreuses ressources humaines et intellectuelles capables donc de leur proposer des éléments de réponse parce que l'AFO a failli à sa mission.
Oui, et il y a une question qui me revient tout de suite en tête, les cotisations que vous payez actuellement à l'AEFO, est-ce que cela va se poursuivre?
Oui, évidemment, puisque pour l'instant, c'est le seul syndicat qui, à travers la loi, nous avons à ce moment donné, donc nous continuons d'avancer, oui, naturellement, à le faire. Parce que de toute façon, que ce soit l'AFO ou bien que ce soit l'AOPET, qui est à notre, ce ne sont que des curieux de terminologie, M. Eric.
Oui.
Parce que nous sommes tous des lobbies, des mouvements de pression. Parce que nous sommes là pour faire la pression pour l'amélioration du bien-être de notre bien-être, de nos camarades et de nos frères qui sont tous enseignants.
Et la jeunesse aussi, hein?
Ah oui, et puis la jeunesse.
Oui. Alors, Monsieur Yonsi, vous êtes président. Je vous rappelle aux auditeurs de cette nouvelle association ontarienne des professionnels de l'éducation de la diversité, AOPED. Et donc, vous avez aussi une adresse courriel qu'on peut donner aux auditeurs.
Oui.
AEPED, AOPED,
oui.
2020@gmail.com. Et d'ailleurs, les gens auront toutes les informations sur notre site web, popourichaud.com. Et je rappelle encore une fois aux gens que vous êtes président donc de cette nouvelle association, titulaire d'un diplôme de troisième cycle en sciences géographiques de l'Université Paris X en France, et d'un baccalauréat en éducation obtenu à l'École des sciences de l'éducation et l'Université Laurentienne à Sudbury, dans le nord de l'Ontario. Et actuellement, vous êtes enseignant titulaire à l'École secondaire Sainte-Famille à Mississauga, où vous enseignez les sciences sociales. Eh bien, je vous souhaite bonne chance et surtout que la force soit avec vous et vos membres. Tenez-nous au courant, cela nous intéresse. Et s'il y a quoi que ce soit qu'on peut faire pour vous, n'hésitez pas.
Je vous en prie. Merci beaucoup, Monsieur Eric.
Au revoir et à très bientôt.
Et à très bientôt. Merci.
Je suis un voyageur. J'ai le goût de l'ailleurs. Quand Bob s'est marié, quelle belle soirée à bâtir dans les hauts plateaux de l'Ouest. Pour l'un cuit, je n'étais pas en reste. J'ai dansé le Mendjang quand j'étais en Colombe. Et j'étais à Soliré quand ma fille est née. Et dans tous ces endroits, je veux partager mon émoi, recevoir des photos, uploader des vidéos. Je suis un voyageur, quelle que soit l'heure. Je veux pouvoir me connecter partout où je mets les pieds.
Partout où vous allez au Cameroun, profitez du meilleur d'Internet.
Pour mieux paraître, on a besoin d'une révolution. Pour notre bien-être, on se fait la guerre. Quand on veut vraiment la paix sur cette terre, c'est l'enfer qu'il y a un manque de respect. Entre mes femmes, frères et sœurs, adultes et gosses. Y'a que du drame, du malheur, on se fait plus la noce. Y'a plus de fraternité ou de communication. Mais y'a certainement de la brutalité en nos nations. On rêve d'union, mais on vit dans la division. C'est fini le on, y'a juste le moi, y'a plus de liaison. On perd la raison, on a plus de belles visions. Pendant 4 saisons, on se met à fond pour les foutre. Devant, on venait liberté, car nous sommes des prisonniers qui sont programmés par un système bien manipulé. Ce même système nous donne toujours des belles promesses, des promesses non respectées qui laissent le peuple en détresse. Oh. Dans ce monde de malheur, ce monde de terreur, nous remplit de peur, faible cœur. On se noie dans nos pleurs, affaiblis par la douleur. On vit à peine et on meurt donc comme de fait. Nous ne vivons pas à fond, on se manque de respect. Et on peut pas pour ce port, on devrait vivre dans la paix et l'harmonie. Au lieu d'être vivre à jamais dans l'agonie. Cette société nous force à agir en esclave. Étant maltraité comme des gosses, nous restons épaves. Dominés par le système, angoissés, on fiche. Contaminés par les élèves, nous sommes faibles comme une tige. Nous nous faisons libres dans ce monde de dictature. Mais armés d'un calibre, nous jouons avec le futur. Nous voulons tout ce qui est bien comme une évolution. Mais notre quotidien a besoin de révolution. Oh. Réflexion, qu'importe la race. Pourquoi vivre dans l'inconnu au lieu de vivre dans l'harmonie? Frère, je porte attention. Quelle galère, pourquoi cette tension? On a besoin d'une évolution.
CIUT 89.5 Toronto.
Chaque dimanche, soyez de la fête avec RFI, Potpourri sur CUT 89,5 FM. Écoutez les voix du monde sur votre fréquence. Quelles sont les valeurs de la francophonie? Quels sont les enjeux de la francophonie? Qui sont les francophones de la planète? Qui sont les francophones de Toronto, de l'Ontario, du Canada? Qu'en pensent les jeunes, les femmes, les LGBT, les immigrants? Chaque dimanche, je vous invite à écouter, participer à nos jeux concours. Votre magazine est avec vous depuis plus de 33 ans.
sur CUT 89,5 FM. Popourri Show. Sur votre fréquence, tout au long de l'année. La radio, comme je l'aime. Madame, how would you like your baguette? With butter or marmelade?
Attention, prêt, déguster. RCI et vos restaurants Élysée vous invitent à découvrir la délicieuse cuisine de Prisca Morgeon. Tous les mercredis et vendredis à 11h, rendez-vous sur le Facebook de RCI Martinique et de Snack Élysée et retrouvez les vidéos Tété Douette. Des recettes savoureuses, équilibrées, faciles à réaliser chez vous. Alors faites-vous plaisir. Encore plus de bonus gourmands vous attendent sur le Facebook Snack Élysée.
Abdul Kouidi Asso, on fait mon anniversaire, mon avion, on aurait un tas de monde.
Un tas de monde? Comment ça, chef? Allez, tu as l'un.
Frérot, gardons les distances d'un mètre, surtout, n'oublie pas mémé. On se tapera la bise après, mais pour l'instant, faut éviter.
Applique les gestes barrières, mano, tous dans le coude, tous dans le coude. Gel sur les mains, il faut bien frotter. Si t'en as pas, faut bien les laver. Faut se protéger, faut pas jouer. Corona, il a des si dangereux.
Coronavirus.
Bonus! Eh! Tiens, pas ça, mais ça n'a pas parce que c'est bien!
C'est quoi vous voulez, bébé?
Respectez les gestes barrières, protégez-vous et ceux que vous aimez!
Présent sur 6 positions satellitaires, le groupe audiovisuel panafricain, label télévision, est depuis mars 2018 le ténor de la diffusion satellitaire en Afrique. Les programmes de label télévision sont disponibles sur Canal Plus Afrique, Canal 46, Excaf Télécom, TNT Sénégal, Canal 104.
Bonsoir chers téléspectateurs.
Sur des bouquets, plateformes et réseaux TNT d'Afrique, partout sur le continent, en réception directe. Label télévision, l'image du continent.
Si j'ai choisi de faire de la radio ou de l'audiovisuel, c'est parce que j'ai été marqué dans ma petite enfance par un poste transistor que mon père m'avait offert. Parce que je voyais un peu la presse indépendante et écrite qui avait une certaine liberté de ton, d'expression. Je dis, je vais emprunter de cette liberté que je vais transcrire sur un plateau de télévision. En faisant quoi? En invitant l'auteur de l'article. Le président Senghor s'est arrêté de parler. Et il a dit, vous voyez les journalistes sénégalais, ils sont indisciplinés mais débrouillards.
Djadji, star de la télé, journaliste, diplomate et écrivain, bientôt en exclusivité sur la Belle TV.
Couleur tropicale est à Cotonou, toi-même tu. Et pour commencer le show, je vous demande de recevoir ici dans la radio des gens, Panico.
Cela veut dire que nous avons notre mot à dire. Cela veut dire que nous avons notre place au sein de ce syndicat. Alors, il est totalement inadmissible que nous payons les cotisations comme les autres et que nous ne pouvons pas accéder à des postes de responsabilité. C'est ça l'absurdité. Qui nous est que le syndicat, que l'AFO nous explique pourquoi nous ne pouvons pas accéder à des postes de responsabilité. Qu'ils nous le disent. Il y a de la compétence au sein des enseignants et enseignants en contemporain issus de la diversité. Il y a de la matière grise, il y a de l'expérience, il y a des gens qui ont des connaissances qui veulent les valoriser aussi. Nous ne demandons que d'avoir notre place. Nous ne voulons que être valorisés à notre juste valeur. Nous ne voulons prendre la place de personne. Nous voulons prendre la place qui nous revient de droit. Nous payons des cotisations comme tout le monde. Nous y avons droit. Nous avons le droit de participer à la vie de ce syndicat. C'est ce que nous réclamons. Pourquoi nous sommes exclus de la vie, de la gestion de ce syndicat? Pourquoi? Qu'on nous explique pourquoi? Alors qu'il y a de la compétence, alors qu'il y a des connaissances, alors qu'il y a la matière grise au sein des enseignants et des adversaires, nous dirait.
Et il y a aussi nous. Nous qui luttons pour exprimer nos pensées. Nous qui luttons pour chercher le respect des autres. Nous qui ne fléchissons pas devant les remarques des autres, les jugements que l'on nous porte. Nous qui nous sommes défendus contre les abus physiques ou moraux. Nous qui avons surmonté les discriminations sexuelles, hommes, femmes, hétéros ou homosexuels. nous qui avons vaincu un handicap ou une maladie, nous qui élevons nos enfants, parfois seuls. Nous qui puisons en nous le courage, la force et la volonté pour changer, avancer et s'élever. Nous qui surmontons tous les jours des inégalités sociales. Nous qui devons lutter pour nourrir notre famille. Aujourd'hui, nous sommes 50 héros à être sortis de l'ombre. Nous sommes debout devant vous pour défendre les droits humains, la liberté d'expression, l'égalité des genres, pour combattre l'injustice et la violence. Nous voulons faire évoluer les mentalités et les comportements pour une société juste. Demain, soyons plus de 50 000 héros à rejoindre le mouvement et plus nombreux à Rise and Shine.
Et oui, c'est le grand débat en France en ce moment sur la laïcité, la liberté d'expression. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Les propos du président français, mal compris dans les pays musulmans, les condamnations et appels au boycott de la France se poursuivent. Dans une déclaration aux médias, Macron a fait savoir que la France ne retirera pas les caricatures provocatrices, des propos qui ont provoqué une vague de colère dans le monde islamique. Le président turc Erdogan, pour sa part, remet en doute la santé mentale de Macron. Le président Macron lui-même a tweeté peu après « La liberté, nous la chérissons. L'égalité, nous la garantissons. La fraternité, nous la vivons avec intensité. Rien ne nous fera reculer. Jamais. » Je vous invite plutôt à vous déplacer pour suivre l'émission 10 minutes pour comprendre avec Hélène Sérignac, jeune journaliste parisienne, noire, passionnée et inspirée. Elle reçoit François Dupère, universitaire et historien spécialisé dans les questions d'éducation, de bien-être et de diversité culturelle aux États-Unis et en France. Récemment interviewée sur RMC, la ministre de la Famille Laurence Rossignol a abordé la question du port du voile en évoquant des nègres pro-esclavage. Le tollé provoqué par l'utilisation du mot nègre ravive le débat en France. D'Aimé Césaire à Jesse, pourquoi cette locution est-elle tolérée ou non selon la personne qui la prononce ? 10 minutes pour comprendre avec Hélène Sérignac.
Vous êtes dans 10 minutes pour comprendre et le thème d'aujourd'hui, c'est l'utilisation d'un mot très controversé, le mot nègre. Nous sommes sur ce plateau avec François Dupère. Bonjour François.
Bonjour Hélène.
Pour en discuter, puisque comme chaque semaine, vous êtes notre expert et nous parlons d'un sujet d'actualité. Vous êtes également historien, professeur à l'université et très récemment, lors d'une interview accordée à RMC, la ministre de la Famille, de l'Enfance et des Droits de la Femme, la socialiste Laurence Rossignol a utilisé ce mot très controversé. Et dans une comparaison plutôt surprenante, on va réécouter ses propos.
Mais bien sûr, il y a des femmes qui choisissent. Il y avait des nègres américains qui étaient pour l'esclavage. Hein. Et oui. Puis il y a aussi
vous
toujours.
Vous ne croyez pas, vous, une femme qui choisit de porter le voile ou.
Mais bien
vous
sûr,
croyez pas.
Mais non, mais je crois que ces femmes sont pour beaucoup d'entre elles des militantes de l'islam politique.
Alors François, c'est vrai, ces propos, vous les aviez entendus. Tout le monde les a entendus. C'est vrai que ça a créé un bad buzz, comme on dit. Et si on se concentre vraiment sur l'utilisation du mot, pas sur la comparaison, hein, c'est vrai que la ministre le justifie en disant qu'elle l'a utilisé dans un contexte historique. Pour vous, est-ce que c'est une justification ?
Alors ce qu'il faut dire, puisqu'elle parle d'histoire en historien, c'est que ce mot, dans tous les contextes historiques, a toujours été un mot qui est servi à inférioriser. Ça a toujours été un mot péjoratif, pour ne pas dire raciste, dans tous les contextes. Alors ça veut dire, par exemple, à l'époque de l'esclavage, sur les inventaires de plantations, c'est le mot nègre qui est utilisé. Qui est exactement synonyme d'esclave. Donc sur les inventaires de plantation, hein, là où le propriétaire met l'ensemble de sa plantation, les animaux, il met nègre, négresse, négrite et négrillon pour les enfants. À l'époque de la colonisation, c'est aussi la terminologie qui est utilisée. Alors, peut-être qu'elle fait référence à quelque chose, c'est au moment de la ségrégation, certains militants afro-américains, notamment Martin Luther King, il utilise le mot « negroes ». En anglais, il y a « negroes » qui est descriptif et « nigger » qui est le mot péjoratif. C'est peut-être ça qu'elle veut évoquer. « Negroes » est effectivement descriptif. Mais le mot « nègre » n'est pas la traduction de « negroes », c'est la traduction de « nigger », c'est-à-dire le mot qui a toujours été péjoratif. Peut-être pour faire comprendre à la ministre en quoi ce mot pose problème, pour euphémiser, hein, c'est que tout, c'est Nell Lester qui dit cela, qui est professeur, qui est un professeur afro-américain, qui dit les Noirs qui, au cours de l'histoire, sont morts lynchés, ont été assassinés, tout au long de cette histoire, le dernier mot qu'ils ont entendu a été le mot « nigger », c'était le mot de l'insulte du raciste qui était en train de commettre son crime. Donc c'est un mot qui, dans tous les contextes, hier, aujourd'hui, est un mot qui sert à dévaloriser, à asservir.
Mais si on parle d'aujourd'hui, si on est totalement honnête, on a l'impression dans la vie de tous les jours qu'il y a certaines personnes qui peuvent l'utiliser, d'autres non, selon si on est noir, si on est blanc. On a l'impression que ce n'est pas pareil pour tout le monde.
Oui, alors on peut se dire c'est un mot que peuvent utiliser les Noirs sans qu'on les accuse de racisme et que ne peuvent pas utiliser les Blancs. Alors c'est vrai qu'effectivement, il y a un usage réactif du mot nègre et cet usage réactif, c'est notamment, Sartre l'expliquait très bien, il disait le Noir, lorsqu'il est insulté, asservi, ramasse le mot nègre comme une pierre qu'on lui a lancée et le renvoie dans la figure du raciste. C'est exactement les propos d'Aimé Césaire. On va voir ces images. C'est un documentaire que je vous conseille. Et c'est peut-être les dernières images qu'on a d'Aimé Césaire. Il parlait précisément de l'utilisation du mot nègre, puisque lui avait fondé ce mouvement qu'on appelait ce mouvement de la négritude. On regarde les images.
Quand je parle de négritude, c'était pour répondre précisément aux racistes, hein, qui nous considéreraient comme des nègres, autrement dit des rien. Eh bien non, nègre, vous m'appelez? Eh bien oui, nègre je suis. N'allez pas le répéter, mais le nègre vous emmerde.
Incroyable, mais oui, mais c'est vrai que quand on voit par exemple les rappeurs américains qui répètent toujours le mot nègre, on a l'impression que ça a un tout autre sens.
Oui, ils utilisent le mot nigger. Avec un A déjà à la fin. On le voit, par exemple, Nigga in Paris, tout le monde connaît, Kanye West, 2012. Bon. Et il dit d'ailleurs, je l'utilise de manière affective, de manière tendre. Mais là aussi, c'est une utilisation réactive de ce mot. Alors, Barack Obama l'a utilisé en juin dernier. C'est la question du contexte. Barack Obama a dit une société antiraciste, c'est pas une société où simplement on s'interdit de prononcer le mot nègre. Mmh. Donc si vous voulez, si on s'intéresse juste au mot, on peut se dire bon, Barack Obama a utilisé lui aussi le mot nègre, mais c'était dans une utilisation particulière où il disait une société antiraciste, ce n'est pas seulement faire la guerre contre certains mots, c'est plein d'autres choses. Donc voyez, ça a été intéressant parce qu'il a prononcé ce mot en juin dernier. Et dans la presse américaine, on n'a pas repris le mot « nigger », on a repris le mot « n » avec trois petits points. On appelle ça d'ailleurs le « n-word », hein, c'est le mot qui commence par « n » et qu'on ne prononce pas et qu'on ne dit pas aux États-Unis. Et les médias américains, quasiment tous les médias américains, à l'exception de CNN, CNN a dit « attention, ces images peuvent choquer, le président va prononcer un mot », mais tous les autres médias américains ont remplacé le « nigger » par « bip ». Donc, ce qui montre que dans la société américaine, ça reste extrêmement tabou, que ce mot n'est pas prononcé de manière courante.
D'accord. Mais vous, j'ai cru comprendre que ça vous gênait, que vous vouliez aller encore plus loin et ne pas utiliser le terme nègre pour parler d'un écrivain qui écrit à la place d'un autre écrivain.
Oui, c'est vrai qu'en France, on utilise le mot nègre pour désigner quelqu'un qui écrit pour un autre écrivain. Alors pourquoi c'est gênant ? La première, c'est que dans l'étymologie de ce mot, c'est exactement l'étymologie raciste dès le départ, puisqu'on l'utilise là pour qualifier quelqu'un qui est censé être un esclave. Donc là, on l'utilise, ça pourrait être une autre utilisation, hein, mais là, c'est le mot nègre pour esclave. Et puis la deuxième chose, c'est que souvent, on l'utilise, c'est un moyen de détourner le tabou. Vous remarquez que ça sert à faire des blagues. Alors notamment quand le fameux nègre en question est blanc et que l'écrivain officiel et noirs. C'est souvent l'hilarité générale et souvent des petites blagues racistes qui se permettent de fuser. Alors qu'il y a plein d'autres mots. En français, il y a aide à l'écriture. Il y a aussi écrivain privé, à force de l'utiliser. Ou alors, tout simplement, comme en anglais, hein, ghost writer, l'écrivain fantôme, on peut aussi utiliser.
Collaborateur d'écriture.
Il y a plein d'autres mots qu'on peut utiliser. Voilà, on peut proposer ça au petit Robert.
D'accord. Et c'est vrai que si on revient un peu à ce que vous disiez par rapport à Barack Obama, ce n'est qu'un mot. Est-ce que le vrai racisme, il est là ou est-ce qu'il est ailleurs concrètement ?
Bien sûr, le vrai racisme, il y a un vrai raciste qui est dans les structures de la société, qui touche aux discriminations, au logement, qui touche à l'emploi, qui touche aux relations avec la police, on le voit aux États-Unis, évidemment, mais il y a aussi un racisme dans les mots. Donc ça veut dire qu'il faut à la fois lutter contre la violence des actes racistes, mais il faut aussi lutter contre la violence verbale, qui est une violence. Si vous vous mettez à parler à la télévision en utilisant des mots qui insultent des gens, des communautés, mais aussi des individus. Si à la télé française, à partir de demain, vous utilisez le mot « youpin » pour désigner un juif ou le mot « nègre » pour désigner un noir, même si c'est un ministre de la République qui le fait, eh bien, ça ne va pas être très très bon pour la cohésion de notre pays.
Eh bien, merci beaucoup pour ce décryptage.
Merci
à vous de nous avoir suivis. Et oui, c'est déjà la fin de cette émission. N'hésitez surtout pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag 10MPC. On vous dit à très bientôt sur FDM TV. Et en attendant, gardez bien les yeux ouverts.
RFI en Amérique du Nord.
Et oui, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés presque à la fin de notre voyage intercontinental. C'était tout un plaisir pour moi d'être des vôtres. Un grand merci au docteur Emmanuel Le Pichon-Wortzmann, directrice du Centre de Recherche en Éducation Franco-Ontarienne, le CREFO. Je salue tout le personnel, tous les amis du CREFO qui nous écoutent en ce moment. Merci à monsieur Blaise Gwendo Yonsi, président de l'Association Ontarienne des Professionnels de l'Éducation de la Diversité. Il est enseignant. Et oui, courage et salutations à tous les membres de cette nouvelle association. Merci au professeur Bouraoui qui nous écoute régulièrement, qui nous envoie des beaux petits messages très inspirants. Bon courage, j'espère que la santé est bonne. Merci à DJ Devera pour le montage, le mixage. Corinne Manjou de Radio France Internationale du magazine Vivre Ailleurs. Merci à tous nos médias partenaires. Le Festival International du Film Juif avec les beaux cadeaux qu'on nous a offerts cette semaine. Et bravo aux heureux gagnants que j'annoncerai sur le site web très prochainement. Avant de vous quitter, comme promis, j'ai le plaisir de vous présenter le tout dernier clip de notre ami artiste montréalais d'origine haïtienne Richie J. Vasimolo. C'est le titre de cette chanson. Maintenant, en image, la chanson est disponible en version audio sur toutes les plateformes numériques depuis le 8 octobre dernier. Grand succès. Il a eu beaucoup de succès dans les radios francophones au Québec et dans le monde. Je vous rappelle que Richie J a été sacré meilleur artiste masculin il y a quelques années à Toronto, au 4e gala annuel des prix Kilimanjaro de la musique afro-caribéenne. L'artiste de Montréal a aussi eu beaucoup de succès avec son album Caribbean Soul, sa vidéoclip Ma chérie je t'aime. Un artiste plein de talent, je lui souhaite bonne chance et si on a du temps, je vous ferai entendre d'autres titres de ses chansons, de nos chansons préférées. Allez, on y va avec Vasimolo. Pour ma part, je vous souhaite tout le courage, le bonheur du monde en ces temps difficiles. Que la force soit avec vous et vos proches. Ici Eric Kader, bon dimanche et bonne semaine.
L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Pourtant, je ne dois pas être quoi ce propos. On m'a dit que la vie fait pas cadeau. On m'a dit qu'un diplôme égale boulot. Il y a d'autres qui rêvent la vie de Pablo. Prête à tout pour dinero. La réussite, tu la veux à tout prix. C'est trop près pour la
ici-bas tout n'est pas permis. Tu viens de loin, n'oublie pas ton chemin. C'est un message que tu dois dire à ton fils. Les riches te piègent dans leur délire. Comme des moutons, nous on les suit. La vie nous teste par ses désirs. Ne sois pas con, sois pas stupide. Ouais, maman m'a dit, tu sais, ici-bas c'est pas easy. Faut bosser. Vas-y, vas-y, mais vas-y, mollo.
Bienvenue à toutes et à tous. Je m'appelle Marcelle Lynn. Je suis la directrice générale et artistique de Ciné Franco, le festival du film international francophone à Toronto. Au nom de toute l'équipe, je vous salue de tout mon cœur. Vous nous manquez, fidèles, cinéphiles et amoureux du cinéma. Alors, cette 23e édition du grand public, ce sera notre geste d'amour envers vous. Du 20 novembre au 28 novembre, nous vous proposons 17 longs métrages et 17 courts métrages en ligne, accessibles pour tout le Canada. Notre programmation englobe la diversité francophone internationale, incluant bien sûr la France, la Belgique, la Suisse, mais aussi des pays comme le Liban, avec le film 1982 de Walid Mouanès, le Sénégal avec Le père de Nafi de Mamadou Dia, ou encore le Maroc avec Ta mère de Touria Benzari. Le Rwanda et le Burundi sont au cœur d'un film d'Éric Barbier qui s'appelle Petit pays dans les années fatidiques de 1990. Et pour rester justement dans l'histoire, nous vous proposons également le film De Gaulle de Gabriel Lebeaumin avec Lambert Wilson et Isabelle Le Carré. Un aspect inconnu et intime en fait de la vie familiale du grand général avant l'appel à la résistance du 18 juin 1940. Alors, les histoires d'amour et de femmes abondent dans le registre comique de Ciné Franco. Énorme, de Sophie Le Tourneur à l'humour débridé avec Marina Foïs et Jonathan Cohen. Vous avez aussi La bonne épouse de Martin Provost avec une Juliette Binoche en pleine forme. La belle époque émouvant et tendre de Nicolas Bedos avec Daniel Auteuil. Nous avons également Belle fille, un film de Méliane Margacci, hilarant avec Alexandra Lamy et Miu Miu. Sous les rires de certaines comédies se cachent des observations sociales et politiques assez judicieuses. Par exemple, le film Québec City de Joshua Demers ou encore Tout simplement Noir avec Jean-Pascal Zadi qui vous fera mourir de rire contre le racisme. Des drames familiaux bouleversants dans un milieu rural, comme le thriller glaçant de Nicolas Boukrieff, Trois jours et une vie, et Au nom de la terre, émouvant et poignant, d'Édouard Bergeon, précédé du court-métrage de Nicolas Fay, La clé du sol. Lola vers la mer, le film sur la transidentité de Laurent Micheli avec le magistral Benoît Magimel et l'actrice transgenre toute nouvelle Mia Bolaerts. Ce film vous plongera dans un conflit déchirant entre un père et son ado. Le cinéma québécois aussi nous offre une fenêtre dramatique formidable. Le touchant Vacarme de Nigan Trudel, Nadia, Butterfly de Pascal Plante que nous aimons beaucoup, le sublime Mon Foster de Louis Godbout. Les courts-métrages avec Martin Villeneuve qui vous laissera un souvenir indélébile avec son incarnation d'une de ses grand-mères, Emelda, avec Robert Lepage et Ginette Renault. L'Ontario présente, Ontario créatif, je devrais dire, présente un programme de 17 courts-métrages, principalement de l'Ontario francophone et du Nouveau-Brunswick. Ne manquez pas non plus nos conversations qui accompagnent certains de nos films. Alors, vous trouverez tous les renseignements sur le site web cinéfranco.com. Je répète, cinéfranco.com et également sur nos pages Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Mais je laisse pour la fin la meilleure, je dirais la meilleure nouvelle, c'est que nous avons acquis un nouveau commanditaire, Platine Hampton Security, qui va être notre présentateur. Merci infiniment, Rome. Alors, c'est Hampton Securities. Et aussi, bien sûr, ce festival ne serait absolument pas possible sans le soutien financier de Power Corporation du Canada, de Téléfilm Canada, de l'École internationale du Canada, TFS, de la Société des Jeux et Loteries de l'Ontario et de l'Ontario Créatif. Merci à tous nos commanditaires, à tous nos partenaires. Je répète, rendez-vous à cinéfranco.com. Merci pour votre attention et bon cinéma.
C'est moi t'as vu en premier, mais qui bat, 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 mais qui bat, ouvre les poumons, y'en a.
Dingue, bat, poumons, y'en a, bébé, dingue, bat, poumons, y'en a.